d'Israël, notamment, hein, l'histoire d'Abraham, vous avez entendu parler de lui, de Moïse aussi, du roi David, etc. Et puis, il y a le Nouveau Testament, hein, avec Jésus, voilà, qui est le fruit des promesses des prophètes de l'Ancienne Alliance. Et en la personne de Jésus, il y a le Messie, il y a le Sauveur du monde. Voilà. Et le Sauveur du monde a prononcé une parole sur laquelle je voudrais qu'on réfléchisse ensemble cet après-midi. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, verset 23. Alors c'est la deuxième partie de ce verset sur laquelle je voudrais qu'on partage ensemble. Et Jésus répond à ses interlocuteurs en disant « Mais pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier ?» Alors il les fait ici allusion à une guérison que Jésus a opérée à l'égard d'un homme qui était paralytique dans un endroit qu'on appelait la piscine de Bethesda. Mais ce qui est intéressant ici de souligner, c'est que Jésus est en train de nous dire qu'il se propose de nous guérir à trois niveaux. La guérison, elle est tout entière. De ce que j'ai guéri un homme tout entier. Alors dans trois directions, je pense vraiment que Dieu, par la personne de Jésus, son Fils, entend bien nous guérir d'abord spirituellement. Ensuite, il veut nous guérir intérieurement. Et même, figurez-vous, que Jésus se propose aussi de nous guérir, pourquoi pas, physiquement. Vous voyez, trois dimensions à la guérison. Alors, la guérison spirituelle, pensez-vous, mes amis, vous qui peut-être venez pour la première fois, ne pas avoir besoin de guérison spirituelle? Ben, j'étais de cela personnellement, et quand je vois Loïs, ça me rappelle aussi, tu vois, je ne sais pas quel âge tu as, mais moi j'avais 18 ans quand j'étais vêtu de blanc comme elle, avec des cheveux jusque là, vous voyez, et à l'époque j'avais même des tablettes de chocolat. Maintenant c'est les tablettes de chocolat fourrées. Différent. Voilà, les années ont passé. Mais je peux vraiment vous dire, amis, que alors que j'avais 18 ans, Jésus, oui Jésus, ce Jésus que je connaissais pas, si ce n'est par la tradition religieuse, quoi, c'est tout. Mais vous imaginez, un gars comme moi, à l'époque, avait des cheveux très longs, vous savez, c'était un peu la période hippie, la période des babacools, on appelait ça. Moi, j'étais un peu comme ça. Alors, j'avais mon bonnet, ma grande veste de velours, mes gros godillons, ma pipe. Voilà, et puis je baroudais un peu dans le monde. À l'époque, j'avais prévu faire un voyage le long de l'Amazone en Amérique latine. J'avais prévu faire du yoga en Inde avec un cousin d'un ami. Enfin, bon, j'avais plein de projets, quoi. Mais voilà, ce que je savais pas, c'est que quelqu'un m'attendait dans ma quête de vérité. J'étais prêt à parcourir le monde pour trouver une vérité, une philosophie qui pouvait satisfaire mon être. Et puis finalement, cette vérité, elle était à ma porte. Et c'est au travers de ma maman que j'ai reçu cette vérité, puisqu'elle s'était convertie des années auparavant. C'est extraordinaire, hein ? Alors malheureusement, moi j'ai eu un papa, il était malade intérieurement, et on a beaucoup souffert malheureusement au travers de son attitude. Il se faisait traiter au niveau des nerfs, alors après il allait au café. Alors, vous imaginez, son traitement plus l'alcool, ça le rendait fou, ce qui fait que j'ai assisté tout petit à des scènes à la maison vraiment difficiles, quoi, voyez, où j'ai dû séparer mon père de ma mère qui se battaient. Enfin, ça a été ça toute mon enfance, j'ai grandi comme ça. Et dans mon adolescence, j'étais haineux, voyez, j'avais de la haine, vraiment de la haine. Et un jour, un copain me dit, écoute Daniel, parce que je m'appelle Daniel, est-ce que tu voudrais pas faire de la boxe ? La boxe, le karaté, ça me plaisait mieux, la boxe, bon, et pourquoi pas ? Et alors, je me suis mis à faire de la boxe, je faisais un peu de tout à l'époque, vous voyez, j'allais dans tous azimuts. J'ai fait de la boxe, et quand je tapais sur le punching ball, je m'en donnais à cœur joie, parce que je voyais là le visage de mon papa. C'est terrible, hein ? J'étais haineux. Et donc je me disais, le jour où je lui casserai la figure, je serai heureux. Donc je m'entraînais pour ça. Vous voyez, c'était terrible, quoi. Alors, j'étais un adolescent complètement déchaîné, haineux, agressif. Voilà. Jusqu'au jour où ma maman me parle de son Jésus. Voilà encore autre chose. De son Jésus. Et puis, un jour, on se retrouve une soirée. Il faisait beau, figurez-vous, à Brest, ce jour-là. Faut que je le note, quand même. Et puis, elle me dit, « Oh, regarde le beau ciel étoilé. Waouh !» J'ai dit, ouais, c'est joli, hein, ouais. Tu vois ça? C'est la création de Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire Dieu là-dedans, quoi? Mais franchement, qu'est-ce qu'il vient faire Dieu là-dedans? Elle me dit, mais tu vois, c'est la signature de Dieu. La beauté de l'univers, tout ça, c'est pas le fruit du hasard. Je dis, ah, tu racontes des sornettes, ça m'intéresse pas. Enfin, vous voyez, bon, j'étais comme ça. Mais comme j'étais baroudeur, j'ai voulu savoir un peu plus comment des jeunes vivaient la foi. Alors j'ai pris mon sac à dos, j'ai dit à ma mère, tu sais pas où je pourrais trouver des jeunes qui vivent la foi. Alors elle s'est renseignée, et puis voilà que j'arrive au Chambon-sur-Lignon. Il y en a certains qui ont été là, hein. On appelait ça, nous les jeunes, autrefois, jambon sur l'oignon. Voilà, au Chambon-sur-Lignon, avec un grand chapiteau, plein de jeunes. Et là, moi, je me retrouve là. Alors le responsable avait fait le tour un petit peu, vous êtes là pourquoi tout ça? Puis moi je suis là parce que j'ai envie de voir comment vous vivez votre foi. Ah, bienvenue, bon ben fais-toi du bien au milieu de nous. Et puis j'assistais, ben, alors vraiment en observateur, toutes les réunions, comme là vous êtes là, une réunion là, peut-être pour la première fois, ils disent, qu'est-ce que c'est quoi ça? Et moi j'étais comme vous, je dis, alors c'est quoi? Et j'entendais les gens chanter là, comme cet après-midi, je dis, ouais, c'est bien, ça a l'air vrai ce truc quoi, ça a l'air vrai, ils ont l'air de croire que Dieu est là. Ils sont en train de prononcer le nom de Jésus, mais non pas religieusement, mais avec authenticité, avec force, avec foi. Il se passe quelque chose ici, il se passe quelque chose. Et puis il y avait différents prédicateurs qui apportaient l'écriture. Et je me souviens seulement du fait que c'était un monsieur chauve qui là apporte la parole. Et à la fin de son message, il dit, y a-t-il des jeunes qui veulent donner leur cœur à Jésus? Alors, il y a plein de jeunes qui se lèvent pour aller à la prière, pour que ce pasteur prie pour eux. Et moi, orgueilleux comme Harpagon, j'étais sur ma chaise, je ne voulais pas décoller. Je dis, moi, donc 18 ans, et les filles, elles vont me voir me lever comme un gamin, aller à la prière, ça ne va pas, non? Ah, je résistais. Et il y a quelque chose qui m'a soulevé de ma chaise. Je me retrouve dans la file, avec plein de jeunes. Et alors là, j'ai fait l'expérience de ma vie. Vraiment. J'avance, j'ai un comme ça, et pour la première fois de ma vie, quelque chose se passe dans mon cœur. Et ça venait d'en haut. Je me sentais sale. Non pas sale, voyez, physiquement, mais sale intérieurement. J'avais pas tué, j'avais pas fait des choses abominables, comme tous les jeunes de l'époque, j'avais fait un peu des... Voilà, mais c'est tout. Et là, une conviction, mais alors impressionnante. Mais qu'est-ce qui m'a... Et je me souviens, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Maintenant, je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de péché, de justice, de jugement. En fait, je n'étais pas en règle devant le Dieu qui est saint, pur. Je n'étais pas en règle, j'étais perdu. Et le Seigneur était en train de me convaincre de ma perdition. J'avais besoin d'une guérison spirituelle. Et simultanément, je sentais un amour profond, intense. Jamais je n'ai connu un papa aimant, me tenant dans ses bras, dialoguant avec moi, pas du tout. Et là, je sentais comme, excusez-moi l'expression, mais comme un bon papa dans le ciel, qui me prenait dans ses bras et qui me serrait fort pour me dire, mon gars, je t'aime. C'était ça. Alors mes amis, là j'ai craqué. J'ai commencé à pleurer, mais alors en sanglots. Je ne me contenais plus. Tout ce que j'avais emmagasiné durant ces années, ça sortait. Et me voilà devant le pasteur, les yeux larmoyants, ça dégoulinait de partout. Il me regarde, je me souviens encore, ça fait 36 ans de ça. Il me regarde et la parole qu'il a dite, elle restera gravée jusqu'à la fin de mes jours. Mon gars, tu veux donner ton cœur à Jésus? Voilà ce qu'il a dit. J'ai dit oui, monsieur. Il a prié simplement. J'ai regagné ma place. J'avais toujours mes cheveux longs, ma dégaine un peu bizarre à l'époque, mais tout avait changé là-dedans. Amen. Ensuite, je suis retourné dans ma ville, à Brest, j'habitais dans un quartier HLM au 7e étage. Il n'y avait pas de portable à l'époque, puis je ne téléphonais pas comme ça. J'arrive, je sonne à la maison, ma mère m'ouvre, elle était au courant de rien, elle savait que j'étais parti dans un camp de jeunes, mais c'est tout. Elle ouvre la porte, elle me regarde et elle me dit, mais Daniel, tu as changé. Rien qu'en me regardant, j'ai dit, oui maman, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et je peux vous dire, pour que je dise ça, j'ai donné mon cœur à Jésus, ben, c'est que c'était vrai. Je peux vous dire franchement que c'était vrai, quoi. J'ai donné mon cœur à Jésus. Alléluia. Amen. Tous mes copains étaient vraiment étonnés. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est ton nouveau truc. C'est ton nouveau truc. T'es tombé sur la tête, quoi. Et je participais aux réunions de prière qui avaient lieu le vendredi soir, alors qu'avant j'allais en boîte de nuit, j'allais dans les fest-noses, j'allais dans des trucs et des machins, et voilà. Et là, je me retrouvais avec des gens de 50 ans qui étaient pour moi des hommes préhistoriques. Des gens. Et on était là en train de prier dans cette salle. Je me souvenais, moi, de mes musiques hard rock et tout ça et tout ça. Je me retrouve à chanter des cantiques, à écouter l'évangile. Mais vous imaginez la transformation dans ma vie. Gloire à Dieu. Et c'était tellement fort que je suis devenu pasteur. Le Seigneur m'a... Ça a été une contagion extraordinaire. Gloire à Dieu. Quand l'évangile touche votre vie, ça touche votre vie. Alors là, mes amis, c'est radical. Et là, on n'est pas dans un système religieux, dans un conditionnement psychologique, dans tout ce que vous voulez. Jésus nous aime, Jésus nous appelle, et Jésus veut nous guérir spirituellement afin que nous soyons réconciliés avec Dieu et que quand nous irons au ciel, eh bien, nous nous présentions devant Dieu revêtus de la justice de Christ. La seule qui puisse nous sauver, nous justifier dans le ciel pour l'éternité. Et c'est pourquoi Christ est mort sur la croix, pour prendre votre péché comme le mien. Il en a subi la condamnation, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus qui est juste, et le sacrifice parfait qui a été manifesté sur la croix, pour qu'il prenne notre châtiment, notre condamnation, par amour pour nous. Et lui, en échange, il nous donne sa justice. Voilà la croix, mes amis. Et moi, je vivais comme si la croix n'avait jamais eu lieu. Comme si Jésus-Christ n'était jamais venu sur la terre. Et je me pensais éternel sur la terre. Comme si j'allais jamais mourir et jamais rendre compte de ma vie à Dieu. Quelle ignorance. Et on ne peut pas vivre comme si la croix n'avait jamais été planté sur le mont Golgotha à Jérusalem il y a 2000 ans. C'est impossible. Et c'est pourquoi vous êtes là cet après-midi. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que vous aviez besoin d'entendre l'évangile. Parce que ça doit marquer votre vie. Et le jour où vous fermerez vos yeux, j'espère que vous vous souviendrez de cette parole, afin que vous soyez sauvés. Mais notre désir à nous, enfants de Dieu chrétiens, c'est que ce soit maintenant. Vous donniez votre cœur à Jésus. Amen. Guérison spirituelle. Guérison intérieure. La guérison intérieure. Vous savez, Dieu pourvoit aux besoins. Il se préoccupe de nous. Il n'est pas là seulement dans le ciel, les bras croisés, regardez comment ça se passe. Il veut s'impliquer dans notre vie. Vous le croyez? On a une petite mamie dans notre assemblée, et je vois des petites mamies, là, charmantes, je vous salue, hein, vraiment. Et une petite mamie comme vous, là, hein, elle s'appelle Mimi. Mimi Dedelec, une femme de pasteur, son mari est dans le ciel maintenant. Et ces gens-là ont vécu, vous voyez, avec peu de moyens. Ils se sont occupés des gitans à l'époque, tout ça. Ils se sont retrouvés à Châteauroux. Ils n'avaient presque rien. Une petite église dans les années 60. Et puis voilà que la petite Mimi, très frêle, elle tombe malade. Alors, je ne sais plus le nom de sa maladie. Toujours est-il qu'il y avait du pus dans son oreille. C'était assez grave. Elle a fait venir le médecin. Le médecin l'a examiné, il lui a donné un traitement. Il lui a dit, écoutez madame, c'est là que vous habitez? Parce que ce n'est pas du tout sain pour vous. C'est plein d'humidité, tout ça. Mais la petite Mimi, comment pouvait-elle payer un loyer dans un autre appartement? Elle ne pouvait pas. Elle dit, je sais monsieur, c'est difficile, mais je ne peux pas faire autrement. Mais ce n'est pas une maison que vous avez là, madame. Bon. Et puis il est parti. Et là, son mari, touché par ce qui était en train de se passer, s'est mis à genoux. Puis il a prié. Et il a dit, Seigneur, tu vois la situation de ma femme? Seigneur, mais quand même, fais grâce. Donne-nous une maison saine, sèche et gratuite. Et gratuite. C'est ce qu'elle m'a dit, hein, Mimi. C'est, je vous rapporte son témoignage. Elle serait là, elle dirait la même chose. Quelques jours après, on arrive au dimanche. Comme aujourd'hui, dimanche. Et voilà qu'il y a dans l'auditoire, peut-être un peu plus petit que celui-là, je pense, une dame élégante. Cette dame venait de Paris, pensez-vous, à cette époque-là, de Paris. Alors, à la fin de la réunion, le pasteur salue les gens, et puis il salue cette dame élégante. « Bonjour, madame. » Et cette dame de dire « Mais, pasteur, pourquoi vous me dites, madame, mais je suis votre sœur en Christ ? Je suis chrétienne, je me suis fait baptiser à Paris, j'aime Jésus, comme vous. » Ah bon, alors, ouais. Savez-vous ce que cette dame a dit dans la conversation, sitôt après? Est-ce que vous êtes bien logé ici? Vous vous rendez compte? Alors il raconte, il dit non, pas vraiment. Ah bon? Mais écoutez, moi j'ai... Elle avait des biens, cette dame-là. Écoutez, j'ai une maison, moi, à Châteauroux. Elle n'est pas habitée. Je propose que vous y habitiez. Et il faut que vous sachiez que cette maison, elle est de bonne qualité, elle est saine, sèche, et pour vous, pasteur, ce sera gratuit. Dieu pourvoit. Dieu se préoccupe de nous. Vous avez des besoins, vous avez des préoccupations, vous avez des fardeaux, vous avez des soucis. Ne croyez pas que Dieu est au ciel, que vous soyez là, et que vous allez vous dépatouiller. Si vous faites appel à Jésus, mais oui, non pas à un système religieux, mais à Jésus, appelez-le, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans mon couple, mes enfants ont besoin de toi. Professionnellement, j'ai besoin de toi. Dans ma santé, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Et vous allez voir que Dieu, dans sa bonté, va s'occuper de vous. Que vous soyez jeune ou moins jeune, faites de Jésus votre ami. Votre ami, il est, il veut être votre ami. Alléluia. Votre confident. Hein? Il y a des gens, ils se suicident, ils n'en peuvent plus. Ou alors, ils se bourrent de cachet, ils s'énivrent. Ils se défoncent parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils ne savent plus où donner de la tête. Ouais. Vous voyez, ça explose. Et aujourd'hui, on est dans une génération qui est en train d'exploser ou d'imploser. Je ne sais pas. Mais il y a un problème majeur. La Bible dit que la terre est comme un homme ivre qui titube. Et on sent que dans notre société, il y a des gens qui titubent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de guérison. Ils ont besoin de guérison. Et la guérison intérieure, Jésus se propose de l'opérer dans votre vie. Un jour, Jésus déroule le rouleau du livre d'Ésaïe dans une synagogue à Nazareth et il dit, parole qui s'applique à lui-même, du prophète Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ouais. Votre pasteur Benoît peut dire que les chirurgiens sont capables de faire des choses extraordinaires quand ils opèrent un cœur. Ils sont capables de retirer votre cœur, de le découper, de mettre tout à l'endroit. Ils font des choses fantastiques. Mais un chirurgien, un cardiologue, aussi doué soit-il, ne pourra jamais guérir votre cœur brisé. Oui, oui. Et si vous avez un cœur brisé, il n'y a que Dieu qui puisse le guérir. Alléluia. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pourrais vous donner des témoignages, beaucoup de témoignages de gens qui ont été guéris intérieurement. Je vous disais tout à l'heure que j'avais de la haine pour mon papa. Vous en souvenez? Quand je me suis converti, quand j'ai dit, quand le pasteur a dit, mon gars, tu veux donner ton cœur à Jésus? Oui, monsieur. Oui. Eh bien, c'est extraordinaire, mais à ce moment-là, j'ai expérimenté une délivrance. J'avais plus de haine pour mon père, c'était fini. Elle a été retirée. Vous vous imaginez, il y a beaucoup de journées aujourd'hui spéciales en France, la journée des grands-mères, la journée des femmes, la journée ceci, la journée cela. Si on déclarait une journée de guérison intérieure entre les couples, dans les familles, dans notre société, plus de haine, plus de violence, plus de jugement, plus d'a priori, on fait la paix. Et cette paix n'est possible qu'au travers de Jésus. Ce serait une révolution dans notre nation. Une révolution. Nos politiciens font ce qu'ils peuvent pour essayer de donner un visage humain à notre société, ils auront bien du mal. Même le prochain président, il aura bien du mal. parce qu'on a besoin de venir au pied de Jésus pour être guéri intérieurement. Amen. La guérison spirituelle, elle est pour vous. La guérison intérieure, elle est pour vous. Et je conclus, Dieu peut aussi guérir physiquement. Il peut le faire. Tout est possible à celui qui croit. Je voudrais vous lire ce témoignage. Vous êtes d'accord ? Parce que le Seigneur est encore celui qui accomplit ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Écoutez ce témoignage. Je vais lire ça aux amis d'Anceny. En 1994, tout mon estomac fut enlevé à cause d'un cancer. On ne me donna plus longtemps à vivre. Après cette opération, mes aliments passaient directement dans mon système intestinal sans pour y être absorbés. Manger était devenu une agonie. Si je mangeais certaines choses, je risquais de tomber inanimé ou de me retrouver à l'hôpital. Devenu dangereusement maigre, j'avalais 39 pilules par jour, dont 18 pour arrêter la diarrhée. La dose normale est de 2 pilules. L'année dernière, j'ai voyagé à travers les États-Unis pour y prêcher. Je pensais bien que sans un miracle, ce serait mon dernier voyage sur Terre. Puis Dieu a agi. Ça s'est passé en Floride lors d'une conférence de pasteurs méthodistes. À la fin de ma prédication, plusieurs pasteurs m'imposèrent les mains. À ce moment, je tombais par terre, la puissance de Dieu traversa mon corps. Quand je me relevais 4 heures plus tard, j'eus faim. Une sensation impossible pour moi puisque je n'avais plus d'estomac. Il s'était passé quelque chose. Ce soir-là, on mangeait du Kentucky Fried Chicken. En temps normal, je me serais retrouvé à l'hôpital, mais j'entendis Dieu me dire « Mange, tu es guéri ». J'ai donc mangé sans aucun problème. Dans mon excitation, je me précipitais pour m'acheter 2 Big Mac. Depuis ce jour-là, je suis capable de manger tout ce que je veux sans douleur. Je ne prends plus de pilules, j'ai repris 15 kilos. Les médecins me disent que soit Dieu a remplacé mon estomac, ou bien, miracle encore plus étonnant, que tout mon intérieur fonctionne comme si j'en avais un. Non seulement je suis complètement guéri, mais maintenant moi aussi je prie pour la guérison d'autres personnes. Voilà. Le Seigneur est capable de faire de belles choses. J'ai guéri un homme tout entier. Loïs, tu as été guéri aussi, je suppose, hein? En tout cas spirituellement. Amen, hein? Spirituellement. Alors mes amis, l'appel vous est lancé aussi. Il n'y a pas de contrainte, pas de forcing, rien. Mais l'évangile est annoncé. Le témoignage de Loïs va vous être donné. Des chants ont été exprimés avec une bonne musique et tout. Voilà, pour vous dire, Jésus frappe à la porte de votre cœur. Et vous n'y ferez rien, que vous le vouliez ou pas. Il frappera toujours à la porte de votre cœur jusqu'à votre dernier soupir. Et son désir est de te dire, laisse-moi entrer. Amen. Laisse-moi entrer. Ne laissez pas votre vie s'exprimer de manière indépendante par rapport à l'Éternel. Dieu vous aime. Il veut vous sauver. Il a tout accompli. Il vous suffit simplement d'ouvrir votre cœur. Voilà. Et de dire, Seigneur, viens habiter. Ça change tout, je peux vous dire. Ça change tout. Gloire à Dieu. Amen. Amen.